telescope of pressing you on a point you seem reticent to discuss, may I ask you a straightforward question?
Well, certainly.
Quite frankly, we have had some very reliable intelligence reports that quite a serious epidemic has broken out into clearance. Something apparently of an unknown origin. This is in fact what has happened.
Bonjour à vous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Force et Houblon, chronique d'un enfermement. Alors aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous faire un très bel argumentaire. Je viens de recommencer entièrement cet épisode, parce que j'ai vu que je m'y étais perdu d'ailleurs dans cet argumentaire. Je vais vous parler de pensée complexe. Qu'est-ce que c'est que la pensée complexe? Alors bien évidemment, c'est notre président Emmanuel Macron qui l'avait utilisé pour dire que quand même il était très sagace, il était tellement intelligent qu'on ne pouvait pas saisir tout son argumentaire, et c'était donc de la pensée complexe. Et nous, hein, si forcément des gens ont de la pensée complexe, ça veut dire que d'autres gens ont une pensée plus simplifiée. Et quand je dis ça, bien évidemment, je nous regarde à nous-mêmes. Alors, la pensée complexe, c'est selon moi l'art de complexifier bêtement quelque chose qui est simple pour justement le faire avaler plus facilement. Du moins pour y avoir, pour que les gens plutôt y adhèrent plus facilement, parce que on en arrive au fait que si je te dis quelque chose de qui a l'air faussement compliqué, sur un ton quand même assez serein, ou un ton, voire même un petit peu pas autoritaire, mais avec un argumentaire qui est censé faire autorité, derrière, eh ben, tu vas dire probablement oui, hein, parce que tu ne veux pas avoir plus d'avis que ça, et les gens, souvent, quand ils n'ont pas plus d'avis que ça, ils disent oui ou mouais. C'est ce qu'on appelle le consensus mou, à savoir à fédérer les gens sans qu'il y ait plus d'enthousiasme que ça. Et donc, de cette pensée complexe, en ce moment, nous en avons des tétrachiés de partout. On en a, par exemple, comme Natacha Polony, qui trouve des excuses à Emmanuel Macron. Alors, elle ne trouve pas des excuses sur le fait que l'épidémie a fini par arriver et on a été surpris par son ampleur. Ça, je pense que ça n'a pas été le seul dans cette affaire-là. Mais elle lui trouve des excuses pour dire qu'il s'est retrouvé totalement démuni devant l'arrivée de cette épidémie. Sauf que le maintien du premier tour des élections municipales aurait quand même pu être très facilement évité si les autorités en avaient pris la pleine mesure et surtout la pleine, du coup, autorité pour ne pas le faire. Et je pense que d'autres mesures d'exception auraient pu être prises à cette occasion-là, pour cette crise, mais qu'elles n'ont pas été faites. Le fait de renationaliser, par exemple, certaines entreprises vitales aurait pu être une idée, comme une autre, c'est pas ce qui manque, en tout cas. Et le but de tout ça, de cette pensée complexe, c'est de nous faire un petit peu abdiquer avec des arguments pas fallacieux, mais des arguments qui se veulent être à la fois complexes et ou d'autorité, et qui sont là pour nous déposséder de notre capacité à penser correctement. Quand, si je vous dis, par exemple, le chat a traversé la route, on a compris que c'était un chat. Je pourrais vous dire, par exemple, un félin de type animalier, domestique, de couleur de robe noire. Alors là, c'est vrai que ça paraît un peu gros, à traverser une avenue. Hein, c'est plus une rue maintenant, on passe à une avenue. Bon, c'est vrai que mon exemple n'est pas forcément très indicatif, mais le fait, voilà, serait un petit peu de faussement structurer le langage, en fait, de faire quelque chose de simple, quelque chose de très compliqué, pour obtenir ce consensus mou, à savoir que personne n'a vraiment compris, mais on va dire, oui, allez, on va être d'accord, au moins comme ça, les choses seront réglées. Enfin, du moins, on passera à autre chose. On peut aussi voir derrière cette complexification du langage, une façon comme une autre de masquer sa propre médiocrité. Si je dis quelque chose simplement et que ça a l'air très bête, et bien si je le dis de façon complètement abstraite, et bien comme pas tout le monde ne va comprendre, ben voilà, encore une fois, c'est pas ce consensus mou, mais comme les gens ne vont pas comprendre, ils vont se dire « Ah, ben, peut-être c'est intelligent. » Eh ben non. Et souvent, c'est un cache-misère formidable à pas mal d'explications, beaucoup de textes qu'on peut lire. C'est parce que quand on ne sait pas quoi dire, et bien on fait ça. Et pour même aller plus loin, on peut dire que des fois, la pensée complexe creuse un seul et unique sillon. Alors c'est presque du millefeuille argumentaire, quelque part, de nos amis les complotistes. C'est qu'en fait, eh ben, quand je ne sais pas quoi dire, eh ben, je vais mettre beaucoup d'arguments pour faire croire que c'est très complexe. En fait, ça ne l'est pas du tout, parce qu'une fois qu'on a trouvé la faille, eh ben, la solution est quasiment toute trouvée. Très récemment, j'ai lu un article de Frustration Magazine qui nous parlait de notre cher professeur Didier Raoult, qui était un petit peu un genre de... C'était notre David contre Goliath à nous, parce que il luttait un petit peu contre le Big Pharma, et que finalement, s'il prenait un petit peu cette posture-là, c'est parce que c'était un peu les petites gens qui aimaient ce brave Didier Raoult, et donc c'est pour ça qu'il était aimable, parce qu'il était aimé peut-être par la sorte de décence commune des gens ordinaires, comme dirait Orwell. Sauf que prennent des arguments déjà qui ne sont pas forcément étayés, alors ça peut être un argumentaire philosophique, ou plus ou moins réflectif, mais en prenant cet argumentaire-là en disant « oui, les autres médecins sont corrompus et ils se battent contre lui », c'est vrai qu'on a quand même du mal à un moment à se dire « mais lui, pourquoi, à quel moment il ne pourrait ne pas l'être ?» Parce que, tout simplement, si on remet les choses en perspective, il fait lui-même partie du monde médical, pardon, et en faisant partie du monde médical, il peut lui-même être corrompu par les Big Pharma de différentes façons, parce que ce n'est pas en déclarant ces, comment ça s'appelle, conflits d'intérêts, qu'on ne les cache pas, hein. C'est un petit peu comme la loi. C'est pas parce qu'on met quelque chose dans la loi que cela devient forcément interdit. C'est pas parce qu'on dit « maintenant la pédophilie est interdite, maintenant taper sa femme c'est interdit » que ces choses-là vont s'arrêter. Hein. Sinon ça aurait été très simple la vie quand même, on aurait eu une société bien meilleure, bien avant. Et donc, si on commence à réfléchir aux autres par rapport à lui, surtout que ce serait finalement plus les autres qui seraient corrompus, donc une espèce de majorité qui est contre lui, et donc lui serait une minorité un petit peu qui résiste. Alors déjà en plus ça entretient cette espèce de mythe de ce David contre Goliath, mais un petit peu de c'est le résistant dans le maquis. Et c'est vrai que ça devient complètement loufoque, parce que pourquoi lui finalement s'il fait partie de ce milieu-là, il n'y aurait pas droit, alors on pourrait penser qu'il veut faire dynamiter le système de l'intérieur, mais bon, je trouve ça quand même un petit peu opaque comme réflexion, mais eux, ça leur est très bien, ils en ont fait un sacré... ils ont fait la diatribe qui faisait je sais pas combien de caractères, c'était... Je ne suis pas tout pris dans la gueule, parce que c'était un peu indigeste. Et c'est vrai que je vois souvent ce genre de choses pour nous expliquer... espèce d'argumentaire qui est très simple, c'est en fait, on n'aime pas le Big Pharma, on veut pas le dire, donc... enfin, si on veut le dire, mais on veut quand même faire semblant que ça soit étayé. Donc en fait, on prend des trucs totalement biaisés, et plutôt que de le dire franchement et de au moins faire passer ses idées, qu'elles soient bonnes ou non, hein, d'ailleurs, mais là, bah, voilà, on en arrive à ce résultat-là, et moi j'ai trouvé ça totalement. C'est un torchon, voilà, tout simplement. Tenez, par exemple, pour finir cet épisode, je vais essayer de vous montrer que je peux être autre chose que de la pensée complexe. Vous le savez, je pense, si certains me suivent, je suis quand même un farouche opposant à l'Union Européenne, qui pour moi n'est que l'Union Européenne du camion et du libre-échange des capitaux, rien de plus, rien de moins. Eh bien. Malgré tout, je pourrais tomber dans une sorte de positif assez facile qui pourrait être dans une espèce d'euro-bashing, pour faire très simple. Donc c'est à voir que toutes les actions de l'Union Européenne seraient forcément nulles. Vu le peu qu'ils font, c'est vrai que c'est compliqué de critiquer quelqu'un qui ne fait pas à grand cas. Ce serait de ne voir que les choses par ce biais-là. Alors que l'Union Européenne, que je sache, ce ne sont pas une race d'extraterrestres, à part qu'on nous ait très bien menti, qui sont arrivés du jour au lendemain pour nous réduire en esclavage. Non, il y a eu ce qu'on pourrait appeler de la servitude volontaire, ou même bien volontiers, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à un moment, cette Union Européenne, il a fallu la monter, il a fallu faire ses traités, il a fallu faire toutes ses lois, il a fallu faire la Cour de justice européenne, qui nous fait, ma foi, des fois plutôt bien chier. Mais au bout d'un moment, il a bien fallu qu'une élite, quelqu'un, quelque chose, s'y mette pour le faire. Et nos élites françaises ont eu d'ailleurs un très beau jeu à jouer, hein, On a les Delors, on en a plein, etc. On a notre cher Mitterrand aussi, qui a très bien participé là-dessus. Et, au bout d'un moment, l'Union Européenne est peut-être despotique, parce que ce ne sont pas des gens qui sont élus, il n'y a que le Parlement Européen qui est élu. Et encore, quand on voit à quoi il sert, on se demande si c'est plus la maternelle qu'autre chose. Mais non, mais, voilà, faut bien qu'on arrive quelque part. Et au bout d'un moment, si on veut que les choses changent, il faut y aller soit frontalement, parce que je pense que maintenant, pour changer les choses de l'intérieur, ça risque d'être très compliqué, parce que c'est des traités compliqués, un droit compliqué, et si on commence à vouloir attaquer du droit avec du droit, c'est très compliqué. Nos amis anglais y sont frottés, on s'en rappelle encore avec le Brexit, mais eux, ils pouvaient frapper leur propre monnaie, donc ils n'étaient pas tout à fait dans les mêmes problématiques que nous, qui sommes dans la zone euro. Mais force est de constater que, si on attend que les choses évoluent sans trop faire, ou en se disant que l'Union Européenne va changer d'elle-même, ou alors que c'est forcément une entité despotique sur laquelle nous n'avons absolument aucune influence, non, tout cela c'est faux. Si nous le voulions, nous le pouvions. À certains moments d'ailleurs de la construction européenne, les peuples ont été interrogés, certains, en France, les Pays-Bas, ont dit non, nous n'en souhaitons pas plus, nous ne la souhaitons pas comme cela. Ceci a été retoqué, nous sommes, avec certains présidents, comme Nicolas Sarkozy, retournés à Lisbonne pour signer ça, bon gré malgré notre nom, et bien, finalement, on en est quand même arrivé au niveau où nous en sommes. Maintenant, il faudrait remettre les choses en perspective, mais ça, l'Union Européenne, j'en reparlerai dans un épisode qui suivra. Mais c'est vrai que, par contre, voilà, et ce qui est assez édifiant avec aussi ce cas de l'Union Européenne, c'est que c'est pas forcément de la pensée complexe, mais si, quelque part, c'est un peu ça aussi, parce que quand on a quelque chose à faire en France, genre faire des cures d'austérité, hein, grosso modo, c'est un peu ça, hein, parce que faire réduire les budgets des hôpitaux, les budgets des écoles, c'est toujours un petit peu la même rengaine. On aime bien s'abriter, l'Union Européenne, c'est à la fois, là, ce que je vous ai dit, la servitude bien volontiers, mais aussi, c'est une sorte d'argumentaire qui permet de dire aux gens, oui, mais vous savez, à cause de l'Union Européenne, nous avons des engagements à tenir, nous devons rester sous les 3% de déficit annuel, toutes ces balivernes, et qui en fait déresponsabilise et décrédibilise aussi la parole politique. Parce que du coup, on a un peu l'impression que notre président de la République, ou si on en avait une présidente, eh bien, elle était en fait un peu réduite à la gestion des choses. Elle était là un petit peu, on va réduire un peu par-ci, on va faire un peu par-là, et puis on va rester dans les clous, on va pas mélanger les torchons et les serviettes. Et c'est ça qui est un petit peu dramatique aussi, c'est que globalement, derrière cette pensée complexe, en fait, se cache vraiment, c'est presque de la novlangue finalement. C'est vraiment le fait de te déposséder de tes moyens de réflexion, mais potentiels. Parce que, par exemple, en ce moment, on aime bien créer des nouveaux mots en anglais, toute forme de grammaire un peu débilos et un peu craignos, moi je dis. Mais en fait, le problème, c'est que on rajoute des choses dans la langue, mais à la même temps, on essaie d'en déposséder d'autres mots. C'est-à-dire qu'on utilise de moins en moins de mots français plus ou moins compliqués. On va se faire impacter, par exemple, hein, comme mot de merde. On en a plein des comme ça. Et c'est ça, en fait. On fait croire qu'on veut complexifier le langage. Mais non, en fait, on le simplifie à l'extrême. On essaie d'ailleurs même de le faire passer par des filtres pas de bien-pensance, mais de dominant, très clairement, mais de dominant, pas forcément en termes majoritaires ou minoritaires, mais plus des dominants, c'est-à-dire des gens qui ont la capacité à pouvoir agir essentiellement sur le langage pour pouvoir le faire évoluer d'une façon ou d'une autre. C'est cela aussi qu'il faut réfléchir. Il faut pas croire toujours que tout est une lutte de dominés, dominants. Non, il y a aussi des gens qui peuvent être dominés, qui ont tout intérêt à faire quelque chose dans un sens, et les dominants auraient aussi tout intérêt à le faire dans ce même sens-là, parce qu'en réduisant le langage, en fait, on en arrive à réduire les limites de l'imagination et de la verbalisation de ce qu'on voudrait faire. Et c'est ça qui est aussi qui peut poser forcément question. Pour conclure cet épisode, si j'avais quand même quelque chose à en ressortir, si déjà les gens utilisent la pensée complexe, c'est pour finalement déjà avoir une certaine forme d'adhésion par rapport à ceux qui les entendent, parce que, comme je l'ai dit, c'est quand même compliqué d'en tirer le vrai et du faux. C'est un peu comme la littérature du droit, hein. On n'est pas là pour attirer l'adhésion, c'est pas là pour être précis, c'est là pour être à peu près incompréhensible par le plus grand nombre, comme ça, au moins on est tranquille. Déjà, il y a cet aspect-là, et donc le second aspect, qui est aussi à vouloir faire trop complexe finalement, pour dire rien, au final. En fait, on fait une fausse complexification du langage, vraiment pas du discours, mais du langage, qui finalement réduit le langage à rien, à la vacuité, tout simplement. Et donc, en fait, ceux qui pourraient faire penser, que c'est une amélioration du langage, en fait, c'est un petit peu son échafaud. Et il ne faut jamais oublier que le langage, c'est aussi des possibilités d'imaginaire tout autant. Alors, je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt dans Force et Houblon, chronique d'un enfermement.